Bonjour, bienvenue sur Microsoft Virtual Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder la parallélisation des boucles. Alors, pour pouvoir paralléliser des boucles avec la TaskParallel Library, on va utiliser une classe, la classe Parallel, qui contient un certain nombre de méthodes statiques. Méthode statique invoke, qui permet en fait d'exécuter les éléments les plus basiques de manière concurrentielle. On va avoir une méthode statique Parallèle for qui singe le for de tous les langages dont on a l'habitude d'utiliser d'habitude, mais cette fois-ci elle va partitionner le code à l'intérieur du for sur différents processeurs. Et puis la classe parallèle, la méthode parallèle for each qui elle va permettre de travailler sur une collection d'objets. Mais tout d'abord, voyons par code comment on peut utiliser cette méthode parallèle invoke. Alors pour illustrer notre méthode invoke de la classe parallèle, on va une nouvelle fois créer des aliens. On va démarrer une task pour éviter de figer l'interface. On va lui définir des options à cette méthode invoke qui sera par exemple je veux un degré de parallélisme à 2, qu'on verra plus tard. Ensuite, je vais utiliser la méthode invoke et cette méthode invoke, je vais lui passer des options. Et puis, regardez, elle peut prendre aussi un tableau d'actions. Donc c'est ce que je vais faire sous forme de lambda expression. Si je vais en créer une première, et puis je vais lui tout simplement lui faire bouger un petit alien, move, voilà qui est fait. Et puis une deuxième expression lambda, pareil, on va lui dire tu vas déplacer le deuxième petit alien. Voilà, donc la méthode invoke, c'est la méthode la plus basique pour exécuter du code dans une tâche. Donc si j'exécute ce bout de code, voyez, mes deux aliens démarrent, je peux suspendre sans aucun problème. Alors, maintenant voyons comment on va pouvoir paralléliser les boucles. En effet, c'est la base de la programmation parallèle. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il existe des méthodes parallèle.for et parallèle.forEach qu'il ne faut pas pensée parallèle au départ. En effet, votre algorithme qui est à l'intérieur de ces deux méthodes, for et forEach, doit déjà être parallèle. En effet, ça ne sera parallèle que si une itération ne dépend pas d'une autre itération. Il va falloir donc bien découper son algorithme pour pouvoir paralléliser correctement la boucle. Le découpage, on le verra dans la prochaine section consacrée à comment débuter en programmation parallèle. Dans un premier temps, voyons comment paralléliser de façon très simple une boucle. Alors revenons à nos boucles. On va déjà définir deux variables. Une qui va me définir mon nombre d'itérations, à 250 par exemple, et une qui va me définir une charge pour simuler une charge. Ensuite, on va accélérer un peu nos petits aliens et puis on va créer une liste d'aliens d'environ 5 aliens. Il faut qu'on arrive à mesurer nos algorithmes. Donc du coup, on va ajouter en fait, on va collecter des données et on va les ajouter à une liste de messages qui va nous tout simplement nous afficher à l'écran le résultat de la collecte des données. Et ensuite, on va créer nos boucles. Donc je vais déjà créer une première boucle séquentielle, toujours une boucle séquentielle pour vérifier que le résultat de mes boucles parallèles sont les bonnes, et puis je vais déplacer mon alien. Donc on va afficher que ça va être une boucle séquentielle. Ensuite, on va faire la même chose pour une boucle parallèle, mais cette fois-ci, elle va verrouiller la mémoire. Donc je vais verrouiller, ni plus ni moins, que la somme de mon carré. Donc on va dire que c'est une boucle parallèle à barre de mutex. Ensuite, je vais créer une autre boucle parallèle, mais cette fois-ci, je vais utiliser le verrou reader-writer-lockslim. Tout simplement, je veux vérifier que l'un ou l'autre n'est pas plus rapide en termes de performance. Donc j'ai déjà le mutex, maintenant j'ai le reader-writer-lockslim. Je vais en utiliser un autre qui sera lui, alors, on va aller le voir. Là, je finis ma boucle parallèle. Voilà. Et puis, je veux en essayer un autre qui sera tout simplement un objet d'un tout petit peu plus bas niveau qui est le spin lock qu'on a déjà vu auparavant, mais je veux vérifier s'il y en a un qui est plus rapide ou plus performant que l'autre. Finalement, ok. Voilà qui est fait. Et dernière boucle, bah cette fois-ci, je vais utiliser la version atomique. Hein, vous la connaissez, c'est celle qui est la plus performante et on va le vérifier. Là, affichons. Ok. Et je finis de dessiner mon alien. Je retourne X. Et je dis que c'est une opération atomique pour qu'on voit bien l'autre. Alors, si on détaille un petit peu la boucle simple, très très simple, j'ai ici donc ma méthode for qui prend tout simplement en paramètre la borne, la borne de départ, le nombre d'itérations que je souhaite, et on passe à mon expression lambda ici, on lui va lui passer l'itération si je voulais la réutiliser. Donc voilà qui est fait. On exécute et on voit ce qui se passe. J'exécute, ma première boucle démarre. Ma deuxième boucle démarre. Ma troisième boucle démarre. Toujours celle-là parallèle, donc les deux premières parallèles. La troisième boucle parallèle démarre. Et la quatrième boucle a pas eu le temps de démarrer. On a vu que le petit alien ne s'est même pas déplacé. Mais que tout compte fait, il a bien fini ses opérations. Il les a bien fait au parallèle. Le résultat, c'est bien 441 000. Et c'est exactement le même résultat pour tous. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec cette opération atomique, c'est beaucoup plus rapide que la partie séquentielle. Qui est d'ailleurs, comme on le remarque là, identique avec les parties parallèles mais qui sont verrouillées en mémoire. Alors on l'a vu, hein, utiliser des verrous peut être problématique en termes de performance et même en termes d'algorithmie où on peut avoir des problèmes de verrouillage type étreinte fatale qu'on en a vu dans des précédentes vidéos. Donc, véritablement, quand cela est possible, il est préférable d'utiliser des mécanismes sans verrou, comme les méthodes atomiques. Alors, il est également possible avec Visual Studio de détecter si on a des problèmes de verrou, de détecter ce qu'on appelle les points chauds, ce que disent les anglo-saxons, les hotspots. Mais voyons comment on fait ça avec Visual Studio. Alors, pour déterminer les points chauds, on va utiliser un outil dans Visual Studio qui sera le Concurrency Analyzer. Alors déjà dans un premier temps, on va créer un alien qui va se déplacer à l'écran. Ce n'est pas nécessaire pour déterminer les points chauds, mais c'est visuel. On va créer un mutex, donc c'est lui qui va nous créer notre point de synchronisation. Et dans notre boucle, on va utiliser ce mutex tout simplement pour protéger notre zone de mémoire. Jusqu'à présent, là, vous avez déjà vu ça 100 fois. Maintenant, avant d'exécuter notre code, on va l'exécuter, mais dans un contexte d'analyse avec le Concurrency Visualizer. Donc, je vais le lancer. Donc, je vais faire Go. Donc là, mon alien démarre. Donc, après tout, il n'y a pas de problème, hein, il démarre correctement, hein. Donc, lui, visuellement, ça se passe correctement. Mais vous avez vu dans la précédente démo que mes temps de réponse et de performance était catastrophique lorsque j'utilisais des verrous. Et bien on va voir pourquoi grâce à grâce à cet outil. Là on voit bien que ici il m'a créé en fait un rapport avec l'utilisation des processeurs. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est que j'ai une utilisation qui est quand même relativement restreinte. On voit que maximum il a utilisé un processeur. Alors que j'en ai quand même 8 sur ma machine, et pourtant je suis bien dans une boucle parallèle. Si je prends le nombre de threads ici, si je prends l'onglet thread, c'est ici que je vais voir se dessiner mon algorithme. Et on le voit bien, hein, ce qui se passe là. On voit bien qu'ici, j'ai ma tâche qui démarre, et puis j'en ai une autre qui démarre. Et si on regarde ici, hein, on voit que chaque tâche met environ 3 secondes. C'est quand même assez particulier, hein, mon algorithme. Et puis je vois que il est découpé, hein, cet algorithme. On voit bien que cet algorithme est complètement découpé et que les points ici orange correspondent aux points de synchronisation. Et oui, on s'aperçoit ici que j'ai 90% de temps qui est passé en fait à la synchronisation. Donc quand on détecte ça dans son algorithme. Alors là, pour l'instant, on l'a bien vu dans le nôtre, c'est très très simple parce que il y a juste une boucle. Mais dans un algorithme beaucoup plus complexe, et si on n'a pas pensé parallèle avant, ben on peut justement mettre des points de synchro qui pourraient poser problème. Et c'est là où Visual Studio va pouvoir vous aider très rapidement, tout compte fait, à détecter ces points chauds. Il est donc important d'utiliser les bons outils comme Visual Studio pour arriver à mesurer les problèmes qui peuvent arriver sur notre algorithme. On l'a vu, Visual Studio nous fournit un véritable tableau de bord pour qu'on arrive à déterminer où se trouvent ces fameux points chauds. Il est donc véritablement impératif de mesurer, mesurer, mesurer. Toujours mesurer son algorithme parce qu'il est possible qu'on trouve le meilleur compromis en termes d'algorithmie et surtout le meilleur compromis en termes de personnalisation de la task par library, comme on le verra un petit peu plus tard dans notre vidéo. Mais pour mesurer, avant toute chose, il est important de connaître les facteurs de performance de montée en charge et là où on va pouvoir gagner en performance. Alors, pour connaître ces facteurs de montée en charge, il est important de refaire un petit retour en arrière et de revenir en 1967 quand Monsieur Jane Myron Amdahl a dicté une loi, la loi d'Amdahl, tout simplement, qui dit que le gain de temps sera en fonction du nombre de processeurs, mais également en fonction du pourcentage de parties parallélisables dans une application. Donc là, on voit, j'ai une équation qui dit que l'accélération est égale à 1 sur 1 moins p, donc p étant la partie parallélisable, plus p sur n, n étant le nombre de processeurs. Alors cette équation ne tient pas compte naturellement de toutes les frictions extérieures que je vais avoir au niveau de mon algorithme. Qu'est-ce que c'est que ces frictions extérieures? Eh ben c'est par exemple les switches de contexte comme on a vu auparavant. C'est quand les processeurs ne sont pas forcément disponibles parce que d'autres applications dans le système d'exploitation ont besoin des ressources processeurs. On imagine que l'application n'est pas parallélisée et ici vous voyez j'ai 5 boîtes qui mettent environ 100 millisecondes. J'ai un nombre de processeurs qui est complètement infini. Et j'ai donc mon P qui est égal à 0 parce que l'application n'est pas parallélisable. Si je prends la loi d'Amdahl et que je remplace les différentes valeurs variables par leurs valeurs, comme ici je le fais, par exemple 0 parties parallélisables, un nombre infini de processeurs, ben à la fin je vais m'apercevoir que je vais avoir, ben, contre toute attente, hein, naturellement, 500 millisecondes d'exécution au niveau de mon application. Ce qui est normal, ce qui est logique. Si je parallélise, 40%. Donc mon P devient à 0,4 et j'augmente le nombre de processeurs. Je suis à 2 processeurs. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir paralléliser ces 40%. Donc passer à 50 millisecondes sur chaque petite boîte ici. Donc si je remplace les différentes valeurs par les différentes variables par leurs valeurs associées, on voit ici que je vais arriver à une accélération qui est d'environ 1,25. Donc, environ 400 millisecondes au niveau de l'exécution. Si je continue en fait la démarche et que je passe cette fois-ci à 4 processeurs, bah de la même manière, je vais pouvoir donc paralléliser mes fameux 50 millisecondes, donc en 2 fois 25. Et selon l'équation d'Amdahl, si je remplace les variables par leur valeur, j'arrive à une accélération de 1,42, donc en gros 352 millisecondes. Si j'ai un nombre infini de processeurs, reprenons cette loi d'Amdahl, je vais donc avoir une partie théorique qui sera complètement négligeable par rapport à la partie séquentielle, hein, celle qui n'est pas parallélisable. Et si je reprends l'équation, bah l'équation elle est très simple. Si je remplace par exemple infini par 100 milliards de processeurs, voilà ce qui arrive, je vais avoir une accélération qui ne va jamais dépasser les 1,66 et donc un temps d'exécution qui sera bah, égal au temps d'exécution de la partie séquentielle. Alors ça, c'est de la théorie. Voyons maintenant comment on fait une boucle en parallèle et comment on arrive à mesurer cette boucle. Bien, bah alors vérifions cette loi d'Amdahl. Bon, alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, pour avoir une représentation graphique à l'écran de ce qui se passe, on va déjà faire baisser la taille, hein, réduire la taille de nos aliens, parce qu'on va en mettre 17. Ensuite, on va afficher les messages dans une liste box et on va collecter les données. Et puis, comme d'habitude, on va créer une boucle séquentielle qui nous sert d'étalon, tout compte fait, hein. Et donc, je déplace l'alien numéro 0 dans ma liste. Ensuite, je vais définir un nombre de proc qui sera égal à donc 16. Et puis, je vais tester chaque degré de parallélisme de ma boucle en tout simplement utilisant Parallel Options. Et dans Parallel Options, j'ai une propriété qui est max degré of parallélisme. Donc à chaque tour de boucle, je vais changer de degré de parallélisme et comme ça, je vais pouvoir vérifier quel est le degré le plus optimum pour mon algo. Et de la même manière, je vais donc collecter les données et puis je vais démarrer chaque boucle parallèle en passant, vous voyez mes fameuses bornes de ma boucle et un troisième paramètre qui est l'option, tout simplement, qui correspond au Parallel Options. Donc ça, c'est juste pour éviter que chaque alien se marche sur les pieds. Et puis, bon, ben voilà, c'est mon algorithme le plus performant. Donc, c'est celui avec à base de méthode atomique. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Ensuite, de la même manière, je vais éviter qu'il se marche sur les pieds. Ensuite, bon, je dessine mon alien, je retourne la valeur et je dis tout simplement, ça c'est une boucle parallèle pour bien vérifier ce qui se passe et je vais lui passer le max de degré de parallélisme que je veux. Donc maintenant, si j'exécute mon bout de code, je vais créer mes aliens. Alors vous voyez, ils sont tout petits maintenant. J'ai le premier alien qui démarre. Et donc qui va mettre un certain temps. Ça, c'est ma boucle séquentielle. Une fois que celle-là aura fini, ma boucle parallèle avec un processeur doit mettre le même temps. S'il mettait plus de temps, il faudrait que je m'inquiète au niveau de mon algorithme. Donc il doit mettre à peu près le même temps. C'est à peu près ça. J'ai un max degré parallélisme 2, vous voyez qu'il a été plus rapide. Et ensuite, ben, ça se finit petit à petit. On voit que ici, c'est à peu près peu ou prou le même résultat. Là où j'augmente un petit peu. Donc là, je m'aperçois, hein, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est que à partir du 8, quand je passe à 9 tâches, tout compte fait, eh ben je suis à 662 sur mon algorithme. Donc c'est le plus manifestement le plus pertinent. Alors après je peux utiliser, j'ai même plus bas à 13, 586. Mais disons que là la mesure ne prend pas en compte le fait que j'affiche un alien. En règle générale, ici, je devrais arriver à 8-9. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que j'arrive à ce fameux palier où ben, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, même si je rajoutais un nombre de processeurs. Alors, comme on l'a vu, on arrive à un palier avec un certain nombre de cœurs. Donc, ce n'est pas la peine d'augmenter le nombre de cœurs. L'algorithme, selon la loi d'Amdahl, là, ne suivra pas la charge, ne montera pas à l'échelle. On voit ici, j'ai un palier à 5 processeurs. Alors, comment déterminer quel est le meilleur algorithme? Ben, c'est en utilisant des options de la boucle for et de la méthode statique for. Ici, j'ai une option que je peux définir qui s'appelle max degree of parallélisme. On va mettre à 4, on va mettre à 5, on va mettre à 6. On va tester et mesurer, mesurer, mesurer à chaque fois pour voir quel est le meilleur compromis. Mais ça veut dire, hein, que la loi d'Amdahl travaille sur un volume de données statiques, je le répète. Eh bien, en 1988, il y a Monsieur Gustafsson qui a fait un certain nombre d'observations et qui s'est aperçu qu'en augmentant le volume, on va pouvoir améliorer l'algorithme. Et donc l'équation devient beaucoup plus simple. C'est l'accélération va être égale à aux parties sérialisables, symbolisées par S, plus le produit du nombre de processeurs par les parties qui sont en pourcentage parallélisables dans l'algorithme. Donc si on reprend notre petit exercice et que je peux paralléliser 40%, alors là je m'arrête, je peux paralléliser 40%, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas au départ pensé parallèle dans mon application. Donc il est important pour pouvoir augmenter cette partie parallélisable, de bien penser parallèle bien avant la première écriture de code. Bon, revenons à nos moutons. J'ai donc une partie sérialisable de 60%. Je vais avoir un nombre de cœurs à 2. Je reprends le même exercice. J'ai mes parties donc sérialisables. Ici, j'ai 100 millisecondes. Et puis, je vais pouvoir paralléliser mes parties parallélisables. Mais par contre, vous voyez, elles vont mettre le même nombre, le même temps en millisecondes que mes parties sérialisables. Par contre, je vais en avoir deux. Donc, je vais pouvoir travailler sur plus de données. Et du coup, si on prend la loi Gustafsson, on s'aperçoit que dès le début, je vais avoir une accélération de 1,4. Continuons notre exercice. Si je peux en fait rajouter 2 cœurs, donc je passe à 4 cœurs. De la même manière, je vais donc pouvoir augmenter le nombre de parties parallélisables avec un nombre de données constant, par exemple, hein. Et si je réapplique mon équation, on s'aperçoit que je vais avoir une accélération de 2. Et si j'ai un nombre infini de processeurs, ben on s'aperçoit quoi? Bah, tout simplement que la partie sérialisable deviendra complètement infime par rapport aux parties parallélisables. C'est-à-dire que le temps d'exécution de 300 millisecondes sera complètement infime. Elles ne compteront plus en fait dans notre algorithme. Et d'ailleurs, si on prenait par exemple 100 milliards de processeurs, on s'aperçoit qu'on a une accélération théorique, bien sûr, de 100 milliards, qui est infinie, pardon. Alors, pour bien cristalliser la chose, prenez l'image suivante. On imagine que, il y a 30 ans, 40 ans, on faisait un scanner du corps humain en niveau de gris, avec une résolution très très faible. Si on augmente chaque année en fait le volume de données à traiter en fonction du nombre de processeurs, on peut arriver aujourd'hui, en 2014, à traiter des images qui soient non seulement en couleur, avec une définition beaucoup plus importante et surtout en trois dimensions. Donc c'est ça la loi de Gustafsson, c'est de dire à exécution constante, je vais pouvoir traiter plus de données. Alors pour mettre en exergue la loi de Gustafsson, on va peu ou prou utiliser le même algorithme que celui qu'on a mis en place pour la loi d'Amdahl, c'est-à-dire qu'on va créer un nombre d'aliens de 22 avec une taille réduite hein, pour qu'ils apparaissent à l'écran. Et à chaque tour de boucle, on va naturellement augmenter le degré de parallélisme. Donc on va passer dans les options de ma boucle fort. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter à chaque boucle, on va augmenter le nombre d'itérations hein, de ma boucle parallèle. Là, vous voyez, je vais multiplier donc le maxbook qui est à 250, multiplié par le nombre de processeurs ou le max degré de parallélisme que je souhaite. Puis on va collecter les données. Donc ensuite, un peu de plomberie, voilà. Donc là, mon itération à chaque boucle va augmenter. Donc ensuite, petit peu de plomberie pour éviter que les aliens se marchent dessus. Et puis, mon algorithme performant qui permet de calculer le carré de 42. Et ensuite, je déplace mes aliens. Donc là, juste pour bien identifier quelle est la méthode, je dis... Je passe une petite étiquette pour la collecte des données. Donc on va exécuter ce code-là. Donc là, on voit, je vais avoir donc 22 aliens qui s'exécutent. Donc là, j'ai mon premier alien qui a démarré avec un max degré of parallélisme de 1. Ici, à 2, on voit ici à gauche que les itérations, en fait, hein, le calcul de x augmente petit à petit, mais que peu ou prou, je reste sur la même exécution. Et puis comme ça, petit à petit, je vais augmenter le calcul, donc les données, hein, typiquement le volume de données à calculer. Mais par contre, on s'aperçoit que je suis peu ou prou toujours à la même, au même temps. Voilà, on va passer à 10, à 11, on est à 4 secondes environ. Ah, là on augmente un peu à 12, on est à 5 secondes, donc on sait qu'un max degré de parallélisme à 12 c'est moins bon que 13 par exemple, ou que 14. Ou voire 15 qui a mis carrément 6 secondes, donc ça c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas utiliser, ou alors à un instant T, eh ben, le système d'exploitation était occupé ailleurs. Donc là on augmente. Donc là, 18, ça tue tous les records. Donc on voit petit à petit, en fait, on voit que dans l'ensemble, ce que j'ai, c'est que j'ai une progression au niveau du temps de la performance qui est relativement stable. Par contre, que mon volume de données augmente. Donc on peut imaginer ici que si effectivement j'avais des vrais processeurs, parce que j'ai que 8 processeurs sur ma machine, que manifestement on pourrait avoir un temps constant à quelques secondes.